Prenez-vous du temps de temps en temps pour faire votre bilan? Il y a une chose dont je me suis rendu compte dans ma vie professionnelle, et c'est un principe vraiment fondamental, un principe de vie qui s'applique non seulement à la vie professionnelle, mais qui peut s'appliquer à toutes les dimensions de notre vie. Et ce principe est le suivant, c'est que si on veut avoir une vie dense, une vie riche, si on veut avoir une vie évolutive, c'est-à-dire si on veut progresser encore, encore et encore. C'est un peu le titre de cette série de vidéos. Si on veut grandir en conscience, en amour et en compétences, eh bien, j'ai découvert qu'il fallait alterner absolument, et c'est une nécessité absolue, il fallait alterner les moments d'action et les moments de réflexion. Les moments d'action, c'est ce qu'on pourrait appeler, si on fait référence à la Chine ancienne, les moments plutôt yang, et les moments de réflexion, les moments de retrait, les moments de retraite même, eh bien, ce sont plutôt des moments d'énergie yin. Et c'est vrai que si on ne respecte pas précisément cet équilibre fragile et toujours à refaire entre le yang et le yin, entre les moments d'action et les moments de réflexion, eh bien, on n'aura pas une vie intéressante, on n'aura pas une vie épanouissante, on n'aura pas une vie en évolution. Regardez un peu, si vous êtes tout le temps dans l'action, si vous êtes un hyperactif ou une hyperactive et que vous êtes tout le temps en train d'entreprendre des choses, tout le temps en train de faire des nouveaux projets, etc., etc., vous pourriez donner l'illusion que vous êtes quelqu'un qui accomplissait votre vie et votre destinée. Et en même temps, si vous ne faites que ça, eh bien, votre vie ressemblera plutôt à de l'agitation, mais ressemblera aussi à une répétition finalement de tous les schémas anciens que vous connaissez par cœur, mais qui font que finalement, oui, vous accomplissez beaucoup de choses, mais vous n'évoluez pas. Vous n'évoluez pas en conscience, vous n'évoluez pas en compétence parce que vous êtes tout le temps en train de répéter les mêmes schémas. Alors, peut-être que ce sont des schémas gagnants jusqu'à un certain point, mais vous ne pouvez pas espérer qu'il y aura une évolution dans votre vie. Inversement, ça vous le comprenez bien, si vous êtes tout le temps dans une phase de réflexion, si vous êtes tout le temps en train de vous dire comment est-ce que je vais faire ou qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse et que vous êtes tout le temps en train de d'être dans l'inaction pour concevoir la meilleure action possible, mais que finalement vous ne passez jamais à l'action, c'est clair que là aussi, votre vie n'ira pas très très loin et que finalement votre vie va ressembler aussi à une ligne relativement horizontale. Et cette alternance entre l'action et la réflexion m'a été suggéré par une citation du philosophe Friedrich Nietzsche. Nietzsche qui est mort en 1900 et qui disait, il a dit des phrases absolument superbes, d'ailleurs c'est un de mes philosophes préférés, et Nietzsche disait ceci, il disait cette phrase un peu énigmatique, « La chouette de Minerve s'envole à la tombée du jour ». Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire cette affaire-là? La chouette de Minerve s'envole à la tombée du jour. Donc il faut un décodeur Canal+ pour pouvoir comprendre ce que Nietzsche voulait dire à cette époque-là. La chouette de Minerve, en fait, d'abord déjà la chouette, c'est un animal qui voit la nuit. Donc c'est un des rares animaux qui voit les choses que la plupart des autres animaux et les humains ne voient pas. Et c'est la raison pour laquelle la chouette a été choisie comme étant le symbole de la philosophie. Donc, Nietzsche disait, l'activité de philosopher, l'activité de réfléchir sur sa vie, eh bien, c'est une activité qui se fait la nuit, qui se fait à la tombée du jour. Et si vous allez un peu plus loin dans l'examen de cette phrase, vous comprenez en fait que La chouette de Minerve, bon, Minerve, c'était une divinité qui était consultée régulièrement pour connaître l'avenir. Donc, on essayait d'anticiper sur les événements de l'avenir. Donc, la chouette de Minerve, c'est un peu le symbole de la philosophie qui essaye de réfléchir sur qu'est-ce qu'on va faire de notre vie dans le futur. Eh bien, cette chouette ne prend son envol qu'à la tombée du jour. Ça veut dire que il a d'abord fallu, et c'est ça que Nietzsche voulait dire, si vous voulez philosopher, c'est très bien, c'est d'ailleurs moi-même je suis philosophe, disait Nietzsche, mais si vous voulez philosopher, vous ne pouvez philosopher que si vous avez d'abord vécu votre journée. C'est-à-dire qu'il faut d'abord agir, il faut d'abord être dans l'action, il faut d'abord être dans l'incarnation, il faut d'abord être dans le vécu, avant de pouvoir prendre son envol, c'est-à-dire prendre du recul par rapport aux événements que l'on a vécu pendant la journée, pour pouvoir faire le bilan, pour pouvoir philosopher, pour pouvoir tirer les enseignements de ce que nous avons vécu pendant la journée. Est-ce que vous comprenez mieux cette image de la chouette de Minerve ? Donc finalement, pour réfléchir, il faut d'abord avoir vécu. Et ça, je trouve que c'est sain comme façon de voir la vie, parce que beaucoup trop d'entre nous, hein, je ne sais pas si vous en faites partie, mais beaucoup trop d'entre nous croient qu'il faut d'abord réfléchir pour bien agir. Non, je pense que, vous savez, l'action parfaite, elle ne se trouve qu'à force de répéter des essais et des erreurs. Et c'est à force d'essais et d'erreurs qu'on finit par trouver quelque chose qui correspond à nos aspirations. Mais la première étape, ce n'est pas la réflexion. La première étape, c'est l'action. Et c'est de l'action que nous allons pouvoir tirer à chaque fois des enseignements. Et c'est une habitude que j'ai adoptée dans ma propre vie depuis des années et des années, c'est de faire le bilan systématiquement de tout ce que je vis. Je dirais que si ma vie a évolué autant, si j'ai grandi autant en conscience, en amour, en compétence, si j'ai acquis autant de savoir-faire, mais aussi autant de savoir-être, si j'ai acquis autant de compétences, si j'ai réalisé autant de choses dans ma vie, et ceux qui me connaissent mieux en sont tout à fait témoins, eh bien c'est tout simplement parce que j'ai osé beaucoup plus que la moyenne des individus à faire des expériences en me cassant la figure la plupart du temps. Hein, 8 fois sur 10, je me cassais la gueule. Mais c'est pas grave parce que chaque fois que je me cassais la figure, eh bien, je prenais du temps pour prendre du recul et pour faire le bilan. Alors, pour faire le bilan, il y a quelque chose d'absolument indispensable, c'est de prendre un carnet, c'est ce qui est représenté derrière moi sur l'image qui est l'image de fond de cette vidéo. Mais bon, reprenons les choses dans l'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement pour moi, hein, faire le bilan? Eh bien, pour moi, faire le bilan, ça suppose 5 dimensions différentes que l'on va mettre en place dans un ordre bien particulier. La première dimension de faire le bilan consiste à se remémorer ce que l'on a accompli comme action. Et c'est une remémoration, c'est un souvenir qu'on va essayer d'avoir qui soit le plus objectif possible, qui soit le moins distordu possible, c'est-à-dire vraiment d'essayer de se souvenir qu'est-ce que j'ai fait, un peu comme si vous aviez une caméra, si vous voulez, qui avait filmé votre comportement pendant que vous étiez dans l'action. Donc, et ça, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose que j'apprends aux étudiants de l'Académie de la vie en mouvement, entre autres, c'est vraiment d'apprendre à être observateur de soi-même, apprendre à allumer sa caméra pour être capable, lorsque le temps du bilan est arrivé, eh bien, c'est d'être capable de dire, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, par contre, j'ai pas fait ça, j'ai dit ceci, et d'être capable de retrouver de façon la plus fidèle possible les mots et les phrases qui ont été prononcées. Donc ça, c'est la première étape, je dirais, de faire le bilan, c'est de se remémorer le plus précisément possible, le plus objectivement possible, ce qui a été fait. La deuxième étape, c'est de mettre tout ça par écrit. C'est là où je consomme des dizaines et des dizaines de carnets dans ma vie. En fait, j'ai des carnets pour faire différents types de bilans. J'ai des carnets aussi pour mes projets, ça j'en parlerai dans d'autres vidéos, mais j'ai des carnets pour faire les bilans. Et je fais des bilans à différents moments, ça je vous en parlerai dans la dernière partie de cette vidéo. Et pour moi, l'écrit et l'écrit à la main, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Pourtant, je suis un gros consommateur d'informatique. J'ai énormément d'ordinateurs dans mon entreprise et je travaille beaucoup à l'ordinateur. Mais lorsque je dois faire le bilan, je prends toujours un carnet parce qu'il y a une relation, si vous voulez, au mouvement, une relation kinesthésique qui va faire que la mémoire va travailler différemment lorsqu'on écrit sur un papier plutôt que lorsqu'on tape ce texte à l'ordinateur, à l'écran. Donc, la mise par écrit, pour moi, c'est une deuxième étape qui est complètement indispensable au fait de faire le bilan, parce que c'est ça qui va vous permettre de prendre distance une fois que vous allez passer à la troisième étape, qui est l'analyse. Hein? Parce que la deuxième étape, finalement, c'est de jeter sur le papier le compte-rendu des actions que vous avez posées et dont vous vous êtes souvenu. Ce qui fait que vous allez avoir plus de facilité à prendre du recul. Hein, vous voyez le geste que je fais, vous allez pouvoir prendre davantage de recul par rapport à ce que vous avez vécu parce que c'est mis par écrit. Et là, tout à coup, vous allez voir les choses comme si c'est quelqu'un d'autre qui avait vécu cette situation et vous allez donc pouvoir voir beaucoup mieux les éléments d'analyse que vous pourrez ressortir. Troisième chose, évidemment, quand je fais le bilan, c'est que j'essaye d'analyser les comportements que j'ai eus, j'essaye d'analyser ce qui était adapté aux objectifs que je poursuivais et qu'est-ce qui était inadapté aux objectifs que je poursuivais. Et ça, c'est un moment qui peut prendre beaucoup de temps. Quatrième étape, évidemment, une fois que j'ai analysé tout cela, eh bien, je vais tirer les enseignements de l'analyse que je viens d'accomplir. Et tirer les enseignements, c'est donc tirer les lois générales, c'est de tirer les règles générales qui me permettraient d'être plus conscient, d'être plus compétent, d'être plus adroit, d'être plus performant dans l'avenir lorsque je poursuivrai le même type d'objectif. Donc, c'est vraiment très, très important aussi lorsque vous faites le bilan de prendre du temps pour dire « Ok, quelle est la loi générale que je peux tirer de cette analyse que je viens de faire sur un cas particulier pour pouvoir justement améliorer et pour pouvoir continuer à progresser dans mon existence. » Voyez ? Bien. Et cinquième et dernière étape, c'est qu'une fois que j'ai tiré les enseignements, évidemment, je vais me fixer des nouveaux objectifs de vie, des nouveaux objectifs professionnels, des nouveaux objectifs sportifs, des nouveaux objectifs conjugaux, des nouveaux objectifs parentaux, peu importe. Je vais me fixer des nouveaux objectifs qui vont tenir compte de ce que je viens d'apprendre, de l'analyse que je viens de faire, des événements que j'ai vécu. D'accord ? Bien. Alors, vous allez me dire, oui, mais Jean-Jacques, quand est-ce que tu fais le bilan en ce qui te concerne ? Eh bien, je dirais que moi, je fais le bilan à quatre moments, quatre types de moments différents. Je fais mon bilan, pas tous les jours, hein, je vais être honnête avec vous, pas tous les jours, mais chaque fois que j'ai vécu une journée importante, chaque fois que j'ai vécu une journée significative, eh bien, je vais prendre un moment le soir avant d'aller me coucher pour faire un rapide bilan de ce que j'ai fait, de ce qui était adapté, de ce qui était inadapté, de quels étaient mes objectifs de la journée et est-ce que j'ai atteint les objectifs de ma journée. Bon, je fais ça surtout essentiellement au niveau professionnel, mais c'est quelque chose qui me permet très vite d'identifier les actions inadaptées que je mets en place et qui font que je suis moins performant ou que j'atteins moins bien les objectifs que je m'étais fixés. Il y a un autre bilan que je fais, c'est un bilan que je fais chaque semaine. Donc chaque semaine, en fait, je me fixe les objectifs pour la semaine suivante. Mais avant de me fixer les objectifs pour la semaine suivante, eh bien, je fais un bilan de la semaine écoulée. Et c'est ça qui me permet de tout de suite identifier les dérapages que j'ai pris. Peut-être les pertes de temps, les pertes d'efficacité. Pourquoi est-ce que je n'ai fait que la moitié de ce que je pensais pouvoir faire dans la semaine qui vient de s'écouler? Et quels sont les parasites par lesquels je me suis laissé perturber ou distraire? Voilà, ça c'est un deuxième type de bilan que j'ai absolument besoin de faire avant de me fixer les objectifs de la semaine suivante. Il y a un bilan que je fais chaque mois. Donc chaque mois, je vais faire un peu le même exercice que je fais chaque semaine. Donc je vais reprendre mes notes des journées et des semaines pour dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé le mois dernier et quelles seraient les choses que je voudrais avoir accomplies d'ici la fin du mois prochain. Et ça, c'est une discipline que j'ai mise en place. Très souvent, je fais ça le dimanche, le premier dimanche du mois. Eh bien, je regarde en arrière le mois qui vient de s'écouler ou les mois qui viennent de s'écouler depuis le début de l'année. Et puis, je me fixe les objectifs jusque le mois suivant, le premier dimanche du mois suivant. Bien. Et alors, le plus gros bilan que je fais, pour lequel je consacre énormément de temps, c'est le bilan que je fais au moment du solstice d'hiver. Vous savez que j'ai enregistré une autre vidéo à propos du solstice d'hiver, et si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous encourage vraiment à la regarder en écho, je dirais, et en complément de cette vidéo. C'est que pour moi, le solstice d'hiver, comme je l'expliquais dans cette vidéo, c'est un moment qui invite à l'introspection, qui invite à l'analyse, qui invite à la retraite, qui invite justement à ne pas sortir de chez soi, puisque c'est le moment des nuits les plus longues. Et quand les nuits sont longues, ben on reste chez soi. Hein? C'est pas le moment de faire la fête, si vous voulez. Et depuis plus de 25 ans maintenant, je prends en moyenne, entre 3 et 4 jours, ça c'est le minimum, ça peut aller jusqu'à 15 jours, ça dépend des années que j'ai vécues, eh bien, je peux prendre entre 3 et 15 jours pour faire une retraite. Alors cette retraite, je peux la faire dans un monastère religieux, je peux la faire dans un chalet que j'aurai loué, je peux la faire chez moi, dans une pièce où je ne vais voir personne pendant plusieurs jours, je peux le faire aussi sur une plage de Guadeloupe ou de Martinique, au soleil, mais le but du jeu est toujours le même, c'est que je vais faire le bilan de mon année cette fois-là. Hein, puisque le solstice d'hiver, comme je vous le disais, c'est le moment astronomique qui signifie le début de l'année astronomique, c'est-à-dire le moment où les jours vont commencer à rallonger. Et c'est à ce moment-là que je fais un bilan sur tous les plans de ma vie. C'est-à-dire que je reprends les objectifs que je m'étais fixés au solstice précédent, et ça fait 25 ans que ça dure, et je regarde, je prends mes agendas avec moi, je prends mes carnets avec moi, et puis je commence à regarder tout ce que j'ai fait sur l'année, et je fais le bilan sur toutes les dimensions de mon existence. Ça veut dire sur le plan de la dimension matérielle, sur le plan de ma vie sexuelle, sur le plan de ma vie sociale, de ma vie relationnelle donc, sur le plan de ma vie amicale et amoureuse, sur le plan de ma vie créative, sur le plan de ma vie professionnelle, sur le plan de ma vie intérieure et sur le plan de ma vie où je contribue, si vous voulez, à des projets humanitaires qui me dépassent et qui sont bien plus grands que moi. Et c'est un moment qui est absolument fondamental dans ma vie et je ne voudrais vraiment pas échanger ce moment contre n'importe quel autre moment. C'est vraiment le moment le plus précieux de toute mon année, c'est le moment où je fais ma retraite du solstice d'hiver. Et je vous encourage vraiment à, au moins une fois dans votre vie, faire l'expérience de vous arrêter 2-3 jours pour réfléchir à la manière dont vous avez mené votre année et de réfléchir à quels sont les objectifs que vous voulez vous fixer pour l'année prochaine.